Vous écoutez RTL.
Il est 11h03, vous êtes sur RTL à la bonne heure. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Marie Guerrier, nous vous retrouvons naturellement à midi pour faire un point sur l'actualité. Nous, ça y est, nous sommes dans à la bonne heure pour une heure et demie d'humour et de bonne humeur. Avec un invité que vous aimez, j'en suis sûr. Oh, je crois qu'il est, il a un record de présence ici.
Ah oui, je crois.
C'est facilement l'un des invités qui vient le plus souvent. Il n'y a pas de favoritisme.
Si vous voulez, je peux m'en aller tout de suite.
Non, mais comme ça
sera réglé, votre discours. Monsieur Maillot, il n'est pas gentil.
Au contraire, on dit combien on est content de vous recevoir. C'est Michel Bougenin, notre invité. Voilà. Eh oui. On va en parler dans un instant. Je vous présente d'abord l'équipe. Hein.
Oui, présentez-moi.
Alors, dans l'équipe,
je ne connais pas du tout, je n'ai jamais vu.
C'est
la première fois que je viens, je n'ai jamais vu leur gueule. Non. Mais allez-y.
Non, mais ce n'est pas à vous. C'est aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont. Peut-être qu'ils nous voient sur RTL.fr. Sinon, ils ont besoin de savoir qui est là aujourd'hui. Alors, je fais l'appel. Didier Porte en retard, comme tous les jeudis.
Bravo.
Mais il arrive. Régis Maillot. Bonjour Régis. De quoi allez-vous
nous parler ? Bonjour, M. Maillot. Ça me fait plaisir de vous voir, M. Maillot.
Vous n'avez pas de notes, rien ?
Si, j'attends. C'est à l'impression.
Il faut que quelqu'un l'écrive.
Il y a quelqu'un qui vous écrit votre chronique et va vous l'apporter.
J'aimerais bien, ça serait pratique.
J'adore cette idée. Très bien, c'est bien.
Et aujourd'hui, j'ai du 49.3. Je vais vous mettre un beau 49.3, une motion de censure. C'est à la mode.
Vous allez nous censurer ?
Une motion. Non, bah non.
Ah bon, j'espère pas.
On va voir si ça passe. Voilà, des auditeurs. Voilà, c'est les questions des auditeurs le jeudi.
Parfait. Avec nous également Éric Dussard.
Bonjour
Éric.
Je suis fatigué ce matin.
Ça se voit.
J'ai assisté à l'enregistrement de Vivement Dimanche avec Stéphane Bern hier. Ça s'est terminé il y a 5 minutes. Il vient tout juste. Tout le monde dormait sur le canapé rouge.
Oh, c'est pas vrai.
Non, mais c'était bien.
Bah,
c'était
oui.
bien. J'ai tout vu. On en reparlera lundi. Verrez, il y aura un sacré dossier.
Oui.
Pour ce qui est d'aujourd'hui, vous savez que c'est le Nouvel An chinois.
Oui, absolument.
Bon, a priori, pour le président Hollande, c'est un sujet sans risque, hein, le Nouvel An chinois. Et pourtant, il a quand même réussi à faire une boulette.
Non, c'est vrai.
Oui, je pense qu'il a encore énervé Valérie Trierweiler. Un petit lapsus. Alors, des plus choisis. J'entendrai ça tout à l'heure.
Il a bridé son scooter.
Très bien, on va en parler. Et puis, Patrice Carmouze. Bonjour, Patrice.
Hier, on était un peu triste parce que c'était carême, hein, donc on n'a pas mangé. Donc, on va se rattraper aujourd'hui. On va faire un spontinou.
Spontinou,
c'est une tradition corse, une costume corse. Oui. C'est le casse-croûte des bergers. Voilà.
On
va avoir la charcuterie corse, la copa, l'onzou, tout ça. Et donc, j'en profiterai, je vous ferai un petit quiz corse.
Très bien.
Et on va manger surtout.
Bien sûr. Écoutez, voilà le programme. Puis on va parler de ma vie rêvée, sa vie rêvée, celle de Michel Bougenin qui est au théâtre Édouard VII. Dans un instant, jusqu'au 5 avril à 19h.
Il y a un truc que j'aimerais savoir.
Oui.
Quand on est invité à une radio, des fois, il y a des types qui nous disent « Vous voulez boire un café ?» ou un truc comme ça. Oui. Rien, moi.
Non, charcuterie corse.
Vous venez trop souvent.
Je vais me faire frapper, que les auditeurs le sachent.
On est
très
d'un café.
Mal reçu par M. Baird.
Oh, c'est pas moi.
C'est vrai.
C'est nos esclaves.
Mais c'est vous, c'est votre émission, cher ami. C'est votre... Taisez-vous.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et voilà, je vous ai présenté toute l'équipe de la bonne heure. Je vous présente maintenant notre invité. Véritable conteur, sachant immédiatement capter l'attention, on pourrait l'écouter de longues heures nous raconter l'histoire merveilleuse de sa vie. Toujours prêt à enjoliver la réalité, comme tous ceux qui ont grandi au soleil de la Méditerranée, il rajoute des couleurs à la vie, il repeint tout en rose et décrit les situations en plus grand, plus beau. Plutôt que de faire un stand-up pour nous raconter sa vie, il a choisi de nous la faire partager en la sublimant, en l'inventant un peu comme on rêverait tous de le faire pour accroître nos mérites et minimiser nos faiblesses. Avec un talent qui n'appartient qu'à lui, une vraie générosité sur scène, faut le dire, il nous emmène là où il veut et en ce nouvel an chinois du Yang, on est tous un peu des chèvres, on le suit dans ses délires les plus fous. Il réussit à nous faire rire, à nous faire pleurer, à nous émouvoir et à nous enchanter dans Ma vie rêvée au théâtre Édouard VII. C'est jusqu'au 5 avril avec nous ce matin au micro d'RTL, Michel Bougenin. Je me suis rattrapé là.
Oui, pour le café, c'est pardonné.
Et vous voyez, Michel, on change le portrait à chaque fois.
Oui.
On fait un effort.
Oui,
quand même.
Oui, c'est bien. Non, ah oui, c'est... Bon, et puis là, il a vu le spectacle.
Là, oui.
Ça, tu vois, ça aide quand même.
Là, ça aide pour comprendre.
Oui, ça aide parce que sinon, bon. Mais quand il est venu, j'ai joué deux fois de suite.
Ah, hein. Pour qu'il comprenne bien.
Une première fois pour l'image, une deuxième fois pour le son qu'on perd. Sinon, il ne suivait pas. Hein.
Mais alors, ce soir-là, justement, puisqu'on en parle, il y a eu une retardataire qui s'est fait pourrir la vie.
Oui, hein,
toujours. Et puis à un moment, il y a une dame qui riait un peu fort. Et tout, c'était comme un gimmick qui revenait toute la soirée.
Oui, il y a des folles. Il y a des folles, il y a des médecins, il y a des retardataires, il y a.
Mais c'est tous les soirs?
J'improvise tout le temps. La dernière fois, c'est un mec qui avait. Il avait un pull. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, les pulls où il n'y a pas de manches.
Oui, un débardeur.
Un débardeur, en laine, enfin, je sais pas quoi. Et ça m'a fait mourir de rire.
Ah oui, parce qu'on porte plus ça depuis les années 70.
Ouais, j'ai dit, mais on t'a arnaqué, on t'a pas vendu des manches. Et c'est devenu le manchot. Et pendant tout le spectacle, je parlais du manchot. Il y a la fille qui a des... Vous savez, parfois, maintenant, il y a des chandails avec des petites pierres.
Oui.
Genre Sarkovski, là, je sais pas comment ça s'appelle.
Swarovski.
Enfin, des trucs qui brillent.
Sarkozy.
Nicolas Sarkovski, il y a peut-être une sorte
de bling bling.
Et je dis, et quand je vois une dame comme ça, et souvent il y en a, bon, quand ça arrive, surtout dans les premières ans, c'est drôle, je dis, mais c'est-à-dire, tu brilles tellement que dans un port, on éteint le phare, on te met toi en rang quand même. Et je dis, tu fais très boule à facette, on va t'accrocher, on va te faire tourner, on va faire une boum.
Et les gens apprécient en général.
Mais on rit, parce que c'est jamais méchant.
Ah non, jamais, jamais.
Sauf si je tombe sur vous. Mais à part ça...
Mais le jour où j'y étais, il y a eu des gens tellement plus importants que, bon, je suis passé inaperçu.
Le jour où vous êtes venu, c'était le jour de la générale. Oui. Et en général, à la générale, d'abord, je demande jamais qui est dans la salle, parce que j'ai trop peur. Parce que j'ai l'air comme ça décontracté, mais je suis super traqueur. Et le jour de la générale, j'ai voulu même oublier que c'est la générale. Quoi. Je déteste les examens. Je déteste ça. Et on passe notre vie à passer des examens dans mon métier. C'est horrible.
Alors, cela dit, c'était formidable. Moi, je le dis très sincèrement, j'ai à la fois ri, parce que c'est très, très drôle. Et puis, de temps en temps, vous nous cueillez avec de l'émotion, avec. On a une larme à l'œil, parce que. Et au fond, je me faisais la réflexion, ça m'arrive, de réfléchir.
et un exploit. Hein.
je vais me gifler beaucoup plus que vous pourriez le faire. Et avec moi. Et c'est-à-dire qu'au fond, quand on raconte une vie rêvée, on peut dire beaucoup plus de choses que si on reste dans la biographie la plus...
Mais bien sûr. D'abord parce que ma biographie, au premier degré, elle n'a pas grand intérêt. Franchement, je n'ai pas eu une vie si extraordinaire que ça, loin de là. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ma vraie vie? Je vais vous raconter la souffrance d'être un sexe symbole, non?
C'est douloureux. Bon.
Monsieur Maillot.
Demandez à Strauss-Kahn.
La pudeur vous en empêche.
Oui, voilà, l'élégance. Et d'autre part, rêver sa vie... Ça permet, effectivement, c'est comme quand on porte un masque. Quand on porte un masque, on peut dire beaucoup plus de choses. On se sent beaucoup plus ouvert aux autres, bizarrement. La fiction, l'invention, le rêve permet de dire beaucoup plus la vérité que le premier degré. Et en plus, il y a un autre plaisir. C'est que, par exemple, je prends un exemple très con. Moi, j'adore pêcher. Bon, en vérité... J'adore pêcher, mais la pêche ne m'aime pas. Je vous jure. Je vous jure. En 5 ans de traîne, de pêche à
et
la
vous
traîne...
Et vous pêchez au gros, vous pêchez quoi?
Je pêche ce que je peux, surtout.
Oui, d'accord. Et je ne sais pas les mêmes hameçons.
En 5 ans de traîne, je n'ai pas attrapé un poisson. Je vous jure que c'est vrai. Mais je suis damné. Je suis damné. Damné de la pêche. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et je dis que quand j'étais petit, que j'allais à la pêche, je mettais la canne à pêche dans l'eau, et les poissons, ils sortaient la tête de l'eau, ils disaient « pêche-moi, moi ». Alors que, en vérité, dans la vraie vie, quand je vais à la pêche, à mon avis, ils doivent avoir un Toki Walker en disant « le connard est là, on reste à la maison bon. ». Donc ça me permet de dire, et puis écrire le texte. Ça permet de sur scène, de faire ce qu'on veut. Par exemple, si demain j'écris que la plus belle femme du monde est folle de mon corps, si je l'écris, eh ben, y aura une sublime femme qui viendra sur scène en disant « je veux ton corps ». Alors que dans la vie, je vais vous frapper là-bas. Et aussi, ça me permet de dire des choses même en fonction de ce qui se passe dans le monde. Je veux dire que, par exemple, quand j'écris, moi, le texte et les histoires. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce qui se passe, d'accord? C'est-à-dire que chez moi, c'est moi qui décide si on meurt ou si on meurt pas. Or, chez moi, on meurt pas. Parce que c'est moi qui écris. On meurt pas parce qu'on est policier, on meurt pas parce qu'on fait des dessins, on meurt pas surtout parce qu'on est juif, on meurt pas. On meurt pas. Alors que dans la vraie vie, chez vous, là, quand on meurt, on meurt. Oui. Ça va, je vous ai bien bousillé la matinée.
C'est bon, on est déprimé, merci.
C'est la fiction, mais c'est un pouvoir merveilleux de réinventer les personnages, de les faire vivre, ce que vous avez toujours fait aussi, de faire vivre votre famille. Alors, il y a un moment très important dans cette émission, c'est le moment où je lance l'énigme du jour. Pourquoi ? Parce que ça permet à nos auditeurs les plus fidèles de remporter un cadeau. Un cadeau, c'est pas rien cette semaine. Nous voyageons à l'hôtel, dans l'hôtel 4 étoiles pour tout un week-end, l'Aigle des Neiges de Val d'Isère. Et c'est vraiment un très très bel endroit. Ceux qui sont allés me disent que c'est absolument merveilleux. Alors, pour cela, le jeudi, c'est une énigme, c'est une invention que nous cherchons. On cherche le nom d'un sport qui a été inventé par un major anglais, Clopton Wingfield, en 1873. Je me tourne vers notre invité parce que, comme il joue beaucoup à ce sport, et Patrice aussi, ils connaissent tous les deux cette invention.
On a trouvé ça.
Il a la réponse.
Sphéristiké, du nom grec, sphéris, la balle. Ouais. Mais il prit très vite un autre nom, inspiré d'un des termes utilisés dans un jeu bien français. Le jeu de paume.
Tout à fait. Hein ?
C'est un sport qui n'a rien à voir avec les restaurants, puisqu'il n'y a ni set de table, ni service compris. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ?
Par contre, il y a des paumes.
Et déjà, charmante jeune fille en jupette, quand elle court. Je vous propose de nous téléphoner au 3210 ou 74 900 avec le code BONHEUR en majuscule. Et peut-être ce séjour à Val d'Isère est à portée de main.
Tu trouves la réponse parce que c'est compliqué.
C'est compliqué.
En attendant, si on faisait un petit break.
Un tie break. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes avec Michel Boujna pour le spectacle qu'il donne à 19h. Hein, c'est à 19h jusqu'au 5 avril au théâtre.
Ouais, c'est génial.
C'est une heure parfaite.
C'est génial.
On sort du bureau, du travail, et puis hop, on va écouter.
Et puis surtout, on sort du théâtre assez tôt, on va dîner.
C'est bien,
Moi, tous les soirs, je dîne avec tous les spectateurs. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on est beaucoup.
Vous les invitez d'ailleurs, hein, vous payez l'addition.
Je paye tous les soirs, mais je paye aussi les places des spectateurs.
Ça, c'est la vie rêvée des spectateurs.
C'est la vie rêvée des spectateurs. Mais cela dit, c'est vrai que le pouvoir, il y a un pouvoir magique de pouvoir inventer sa vie. De dire, par exemple, le soleil, c'est vrai, après tout, pourquoi il ne se serait pas mis à briller à 4 heures du matin pour célébrer votre naissance ?
Ça, c'est vrai.
Oui. Pourquoi des oiseaux ne se seraient pas penchés sur votre berceau devant le plus beau bébé de toute la Tunisie ?
Mais ça, c'est pas un rêve, c'est vrai.
Non, c'est vrai.
Il y a des trucs vrais dans le spectacle.
Non, mais quand même. Puis c'est vrai que vous êtes Michel Boujna, quand même, c'est pas rien.
Oh, ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr que je sois moi.
Mais alors, justement, comment vous choisissez les moments? Parce qu'il y a des choses vraies, évidemment.
Oui, il y a un mélange.
Et au fond, vous prenez des choses vraies de votre vie, et puis vous poussez le bouchon un peu plus loin.
Je vais aussi loin que je peux. Et puis il y a des choses que je pense aujourd'hui, que je pensais pas quand j'avais 10 ans, et que je mets dans la bouche d'un garçon de 10 ans. Il y a des choses à peu près vraies. Par exemple, quand je parle de mon premier amour, bon, dans le spectacle, il s'appelle Inge Beleisch, parce que c'est la fille de Hula Ventroup et de Roger Beleisch. Hula Ventroup, c'était une jeune touriste belge qui était venue en vacances, là où je suis né. Ouais. Ce qui est faux. Mais j'ai eu un premier amour, j'avais 6 ans, là je dis 4 ans et demi, donc je réduis beaucoup le temps. Et surtout, c'est vrai qu'on nous a surpris sous le lit de mes parents, en train de jouer au docteur. Mon père était médecin, donc moi, avec les filles, je joue au docteur très tôt.
C'est pratique.
Ce que j'ai rajouté dans le spectacle, qui n'est pas vrai dans la vie, ce que j'ai rajouté, c'est qu'on jouait vraiment au docteur. Je lui ai mis 18 suppositoires. Et je raconte que j'ai vraiment voulu la soigner. Et qu'elle a fait une semaine d'hôpital, et moi, j'ai pris une grande raclée. Donc, évidemment que ça, c'est faux. Mais ça raconte aussi... D'abord, c'est drôle. Et ensuite, et ça c'est très important que ce soit drôle, et ensuite ça permet de raconter le romantisme qu'on a sur sa propre histoire. Et quand on regarde sa propre histoire et qu'on la réinvente, eh ben on peut réinventer tout ce qu'on veut. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, j'ai grandi, j'ai arrêté les suppositoires.
Il y a des choses très touchantes quand vous racontez les recettes de cuisine, ce qui se passait
c'est
à
très
table
important.
Avec les parents. C'est touchant. C'est vraiment,
oui, et puis ça me permet par exemple, la mère.
La mère,
qui est un personnage emblématique
de
mon travail.
Et puis il y a rien, il y a votre châle, vous l'avez. Il y a quelques accessoires, il y a le chapeau, il y a le châle que vous.
Quand je joue une femme, je joue jamais une femme. Je joue une femme à l'intérieur, mais je me féminise pas. D'abord parce que je pense qu'on a tous une part de féminité qui est naturelle. Et ensuite, c'est le texte et l'émotion qui dit qui dit ça. Mais quand cette femme découvre, ce qui n'est pas vrai, évidemment, mais j'ai rêvé que ma mère n'était pas inquiète. Enfin, que la mère n'a jamais été inquiète. D'accord? Donc, donc elle prend conscience de toutes les conneries qu'elle a pu faire avec ses enfants. Par exemple, elle n'a pas arrêté de dire à son fils, comme t'es beau, comme t'es beau, comme t'es beau quand il était petit. Ouais. À tel point qu'il croyait que c'était son prénom, comme t'es beau. Et elle dit, j'ai fait une erreur. Et là, je prends un mec dans la salle et je lui dis, bon, regarde, par exemple, toi. Par exemple, prenons Berne.
Non, mais non, justement. Ça ne peut pas marcher.
Si j'étais la mère de Berne, je dirais, j'ai fait une erreur de te dire comme t'es beau. Tu veux que tu dises la vraie vérité? C'est que t'es pas terrible. et elle dit, j'ai fait une grande erreur parce que je les ai traumatisés, mon enfant, mes enfants, en leur faisant croire qu'ils étaient beaux, en leur faisant croire qu'ils étaient maigres, en leur faisant croire tout ça. Et je les ai rendus névrosés.
Enfin, si elle leur disait, comme tu es moche, oui, il sera un peu névrosé aussi, je pense.
Oui, mais elle peut lui dire, je te trouve beau parce que je suis ta mère, mais la vérité, c'est que tu es très vilain. Et là, ça devient drôle. Et en même temps, elle dit une chose vraie, cette femme. Elle dit, nous, les femmes de notre génération, on n'a pas eu le choix. Le seul rôle qu'on nous a laissé jouer, c'était celui-là. Ça, ouais. Et elle dit, je l'ai joué tellement sincèrement, qu'à la fin, je croyais que c'était moi, alors que c'est pas vrai.
Et elle rêve d'une autre vie, en fait.
Elle rêve de fumer des pétards, elle rêve de faire The Voice, elle rêve de faire...
En fait, elle a été une mère nourricière.
Exactement. Et je pense que j'ai inventé ça parce qu'il y a un décalage formidable entre les femmes qui ont aujourd'hui 85-90 ans et les femmes qui ont 40 ans aujourd'hui, parce que le monde a changé. Et donc, les femmes ont changé. Je veux dire, la pilule, l'avortement, le MLF, et même le MLN, qui est le mouvement de libération des nichons, que j'ai créé.
Avec Brigitte.
68,
avec
Brigitte.
Alors, 68. On va en parler.
Très important. Dans le spectacle, j'en 68. Parle.
Oui. Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Et nous sommes avec Michel Boujenah pour parler de son spectacle Ma vie rêvée au théâtre Édouard VII. Mais il y a des épreuves aussi ici. C'est celle des rumeurs du net. Il paraît, cher Michel, que vous vous appelez Michel parce que vos parents voulaient justement vous donner un, comme viatique, au fond, un prénom très passe-partout.
Oui, et puis Michel, c'est ambidextre. C'est masculin-féminin. Il rêvait d'avoir une fille. Ah, oui. Moi, je suis le troisième. Donc, il rêvait d'avoir une fille. Mon petit frère Paul, c'était pareil. Ça pouvait être une fille.
Ouais. C'est pour ça que c'est deux LE, votre prénom. C'est Michel deux LE.
Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que je suis un sexe symbole. Il va mal finir, celui-là.
Ça fait longtemps que je lui dis qu'il va mal finir. Il paraît que vous détestez faire des courses pour acheter des vêtements.
Oui, j'ai horreur de ça. Et en plus, je me plante tout le temps. Enfin, vous pouvez pas savoir les chaussures. C'est un enfer. J'achète des chaussures, le type il me dit ça vous va, je fais ah, ça me va, bon ça me va. Je pars, j'ai mal aux pieds, je peux plus les changer, je les mets dans l'armoire et je vais racheter une autre. Et finalement je porte que des chaussures qui sont en général trop grandes.
Aïe.
Comme ça j'ai pas mal. Mais c'est grave, c'est très grave. Je sais pas m'habiller.
Il paraît, vous êtes papa poule, vous êtes un papa angoissé.
Oui.
Il paraît que vous aviez à l'époque rendu fou le pédiatre de votre fils.
Oui.
En l'appelant, mais des dizaines de fois par jour.
Oui, il faisait du reflux. Alors, les mamans et les papas poules connaissent ça.
À la fin, le pédiatre faisait du reflux aussi.
Oui, après,
il y avait de l'acidité à cause de vous. Il faisait du reflux. Il nous a donné un lait spécial anti-reflux. C'est du ciment. Je l'ai appelé, j'ai dit, venez prendre le biberon, vous, venez. Si vous arrivez à le boire, moi, mon fils, il pourra le boire. Mais il ne peut pas le boire, c'est du ciment que vous voulez lui faire boire. Je vais vous tuer. Il me raccrochait au nez, je le rappelais, j'ai dit, on n'a pas fini la discussion. Et monsieur Berdugo, il s'appelait.
Il s'appelle plus.
Ah ben non, il a pris sa retraite.
Vous l'avez fini au suppositoire, c'est ça. Il travaille dans le BTP maintenant.
Du ciment. C'est vrai que je suis super, c'est grave quoi, c'est grave. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est... Moi, je suis capable d'appeler SAMU, les hélicoptères, l'hôpital. Et comme je suis d'une famille de médecins, c'est fastoche. Parce que j'appelle non seulement mon frère, mais j'ai plein de copains médecins. Plein de copains. Parce que mon frère, il a des copains médecins. Et comme mon frère, il a été à la Salpêtrière, à machin, à truc, j'ai des copains de médecins dans tous les hôpitaux.
Et donc, vous les appelez tous.
Donc, si lui ne répond pas, j'appelle l'autre.
Oui.
Mais comme l'autre, j'ai laissé un message, il me rappelle, mais j'ai appelé l'autre. Vous voyez ?
Ah, ça promet. Vous posséderiez plus de 150 t-shirts, dont pas mal de t-shirts publicitaires de vos spectacles ou des festivals dont vous vous occupez,
oui.
Comme Ramatuel.
Oui, plus que 150.
Ah oui ?
Ah ouais, ma collection est immense.
Immense. Et vous les portez quand ?
Jamais. Enfin, de temps en temps, d'abord, il faut qu'il fasse beau, oui. Parce qu'un t-shirt, c'est à manches courtes en général. Et dans ce pays, il fait pas beau.
Non, c'est vrai.
Et sinon, je les prends au hasard et j'en mets un. Voilà. Mais j'ai des t-shirts super, hein. Super rares. Par exemple, le festival de la d'Ivry. Celui-là, vous l'avez pas.
Il est très bon, celui-là. Il est très très bon.
Non, c'est vrai. On devrait faire des t-shirts nous aussi.
Et il y a des théâtres, les mecs, ils savent que je fais collection.
Et donc ils fabriquent exprès.
Ils préparent. Ouais. Et ils préparent le t-shirt dans ma loge.
C'est quoi votre taille?
Ça dépend des
XL. Oui, ça dépend des. Non, pas XL, pas en ce moment.
L. Non, vous êtes bien.
Stéphane, j'ai énormément maigri.
Oui, c'est vrai.
Stéphane, ça va très mal. Non, mais... Appelez-moi la direction.
Et en vacances.
Si on vous offre un t-shirt Stéphane Bern, vous pouvez.
Vous avez deux.
Un t-shirt Stéphane Bern. J'ai fait son émission. Oui.
Oui. Ah bon.
Mais c'est que des trucs. C'est que des trucs que j'ai fait.
Un t-shirt au lieu des montres. Ce serait bien.
Des montres.
Oui, on fait des montres aussi.
Il prend aussi,
hein. Oui. Non, non. Alors, parce qu'elle doit être, très vilaine.
Ah non, non, moi je les collectionne.
C'est vrai ?
Ah oui.
Elle est belle.
Ah bon ? Ça m'étonnerait.
Non, elle est vraiment. On va vous en descendre.
Vous, la trouvez belle, la montre ?
Oui, elle est très belle.
J'en veux pas.
Bon, d'accord, j'ai pas bon goût.
Si,
il paraît que vous auriez un rêve secret, c'est d'être coincé dans un ascenseur avec Nathalie Portman.
Ah ouais. Nathalie, si tu m'entends, quitte 250 pieds. Je t'en supplie.
Non, il y en a 1000.
Je m'en fous. J'ai enlevé déjà 750. C'est fou, un chorégraphe qui s'appelle 1000 pieds, quand même.
Ouais,
c'est dingue.
Formidable.
Mais en plus, il est formidable, son mari. Ça m'énerve. Bien, parce qu'il a du talent, il est beau, il est intelligent.
Ouais, c'est énervant.
J'ai aucune chance. Mais je trouve cette femme incroyable. Et depuis Léon.
Bien sûr, depuis toujours.
Je suis amoureux de Nathalie Portman. Oui, c'est vrai.
Dernière rumeur, il paraît que vous seriez une sorte d'œnologue de l'eau. C'est-à-dire que vous êtes un spécialiste des eaux.
Oui, je reconnais l'eau. La Contrex, l'Evian, la Volvic.
L'Épar.
Vous la reconnaissez à quoi ? Au goût ?
Au goût, hein. Au goût, bien sûr. Oui.
Les eaux, la bouteille, c'est plus facile.
Bien sûr, les eaux pétillantes, évidemment. Parce que je bois pratiquement pas d'alcool. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il disait plus facile.
Non, parce qu'il vous demande si vous la reconnaissez au goût. J'ai dit oui, parce qu'à la bouteille, sinon c'est un peu facile.
Alexis, je reconnais les bouteilles.
Là, j'ai reconnu la bouteille. Il y a ça, pas d'étiquette,
voilà.
Mais j'ai reconnu la bouteille.
C'est ça, Stéphane Bern, vous voyez ? Oui, bien sûr, au goût. Et il y a des eaux que je supporte pas.
Lesquelles ?
Ah ben non, je peux pas dire.
Celle qu'on vous a donnée ce matin, par exemple, c'est ça ?
Non, celle-là, ça va.
Il y en a qui sont très goûteuses.
Oui, il y en a qui ont un goût particulier. Maintenant, je vais vous dire un truc. Que vous savez peut-être déjà, mais l'eau du robinet,
elle est très bonne.
Il suffit de la mettre au frigo une nuit et tous les goûts que vous pensez qu'ils ne sont pas bons, ils disparaissent. Et parce que moi, j'ai travaillé sur l'eau du robinet aussi, et je peux vous dire, avec les syndicats.
C'est même meilleur pour la santé, non ?
Oui, pareil.
Bah, elle est très bonne, l'eau du robinet.
Tu n'as pas dans toutes les villes, mais.
Oui, ça dépend vraiment.
Et ce qui m'angoisse le plus, c'est que la bataille qui va suivre dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent, ça va être la bataille de l'eau. Ça fait très peur quand on voit les prévisions et
il va manquer de l'eau dans beaucoup de régions.
Ouais. Pour ça qu'il faut s'installer au Québec.
On va retrouver dans un instant Patrice Carmouze pour son quiz.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Nous sommes toujours avec Michel Boujna et maintenant il faut que je vous le dise. Ça va se corser dans La Bonne Heure.
J'adore ce type.
Parce qu'il n'y a que moi pour faire. On nous apporte. Il y a Patrice Carmouze. Voilà.
Le quiz de Patrice Carmouze.
Le casse-croûte
Corse, vous savez que c'est le salon de l'agriculture. Donc la Corse débarque à Paris pour le salon de l'agriculture du 21 février au dimanche 1er mars. Et alors, évidemment, on va goûter du lonzou, de la copa, du saucisson, de la terrine. Des fromages et des fruits corses, enfin, tous les beaux produits corses que vous pouvez trouver au salon de l'agriculture.
Enfin,
il y a même un bar à vin.
S'il en reste, parce que Michel Boujna a tout pris.
Hein, on va goûter dès maintenant.
Vous n'avez pas
dans la bouche.
Avec le verre qui est dedans. Celui qui continue à courir.
Évidemment.
Le moncho. Et on a l'impression que la chèvre, elle continue à courir.
Le moncho.
Oui, c'est l'année de la chèvre.
Ah oui. Oui. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est justement le brochu? Est-ce que c'est un fromage frais, un vin léger ou une huile corse?
C'est un fromage.
Ça, c'est un peu facile.
On parle pas la bouche, Michel.
Alors, oui, bah, quelques questions quand même sur la Corse, hein, oui. Parce qu'il faut se cultiver quand même.
On est au taquet.
Alors, par exemple, la tour de. Vous connaissez ça, la tour de Lury qui est au Cap Corse. Vous allez au Cap Corse,
oui, je vois bien.
Elle porte le nom d'un philosophe qui aurait vécu en Corse entre 41 et 49. Un philosophe de l'Antiquité.
Sénèque.
Absolument.
Voilà. Ouais, vous saviez ça?
Oui, je sais beaucoup de choses. Hein.
Ah, mais c'est. C'est incroyable. Vous le cachez souvent, tout ce que vous savez.
Ah, bah, c'est ça, mais la culture, ça ne s'étale pas.
Mais c'est le Cap Corse, je pensais que c'était le Cap d'Agde où vous alliez.
Sénèque, vous savez qu'il a été le précepteur de Néron.
Oui, mais bien sûr.
Et alors, il a été exilé sur l'ordre de Messaline, qui était la femme de Claude, et puis qui allait un peu voir des garçons la nuit.
Ne dites pas du mal de Messaline.
On l'a beaucoup salué.
On l'a beaucoup salué.
Je ne sais pas la dernière. C'était pas la dernière. Hein,
Quel est le pseudonyme de l'écrivain Jean-Baptiste Rossi? Alors, c'est presque un anagramme. Jean-Baptiste Rossi, si je vous dis, c'est l'auteur de Compartiment Tueur, si je vous dis l'auteur de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, et si je vous dis surtout L'été meurtrier.
On vous dit qu'on va manger.
Je vous réponds rien du tout. Hein.
Sébastien
Japrizo,
bravo.
C'est une bonne réponse. Les humoristes sont à l'honneur.
Le nom du chef du village corse dans Astérix.
Ah oui.
Ça rappelle Tino Rossi. Allez.
Oui. Tino Rossi.
Tino. Une chanson de Tino Rossi.
Oh, Catarina Bella Chichix.
Voilà, il s'appelle Oh, Catarina Bella Chichix.
C'est drôle.
Il y a un pont près de Corté qui permet à un train de passer au-dessus de la rivière Vecchio. Et qui est-ce qui l'a construit?
César.
Très bien. Non, ça date de la fin 1890 à peu près.
Eiffel.
Absolument. Eiffel. Gustave. Hein. Oui. Gustave.
Enfin, il n'y en a pas tellement qui ont fait des ponts à cette époque.
Non, absolument.
Hein.
Vous êtes trop fort. Hein.
Ça, c'est pour Stéphane. C'est en 774, Charlemagne devient roi des Lombards et il décide de donner la Corse à quelqu'un, mais à qui?
À un pays ou à quelqu'un?
À quelqu'un, un pays, on pourrait dire un pays, mais oui, un pays, mais un.
Génois.
Un chef d'État, si vous voulez.
Gênes?
Non.
Au roi de France?
Non.
À l'empereur d'Allemagne?
Non.
Ça n'a pas de rapport avec le Luxembourg?
Non.
Est-ce que c'est en Europe?
Il confirme une décision qui avait été prise par Pépin le Bref, qui était son père 20 ans avant, qu'il avait déjà donné à quelqu'un. Non, c'est en Europe, oui, c'est en Europe.
C'est en Europe.
C'est même en Italie, si vous voulez.
Oui,
mais c'est pas l'Italie.
Au pape.
Voilà, absolument.
Voilà. Oui, il a donné
c'était devenu un territoire de Saint-Pierre.
Oui,
hein,
voilà.
Vous en voulez encore une?
Oui,
allez. Donc, le temps que Régis finisse.
C'est pour vous aussi, c'est dans quel village se sont réfugiés. Vous savez que les Grecs se sont réfugiés en Corse après l'invasion des Turcs, par les Turcs du Péloponnèse. Dans quel village ils sont réfugiés? Est-ce que c'est à Cargèse, à Sartène ou à Porto Vecchio?
Cargèse, ouais, plutôt.
Sartène. C'est à Cargèse.
Vous savez qu'en Corse, on ne parle jamais de ça, mais les Corses, quand il y a eu la guerre avec les Allemands, ils se sont battus.
Ah oui?
Comme des dieux, les mecs. Moi, je connais bien les Corses. Ouais. C'est une terre de résistance.
Mais il y a
une terre inviolée. C'est une terre de combat incroyable. Et ils sont. Et puis, on peut se cacher en Corse.
Vous n'avez pas vu la
caméra cachée du gars qui va en Corse et qui va voir une dame dans le maquis et qui lui dit: je suis poursuivi. Elle lui dit: mais venez. Elle ne sait même pas pourquoi il est poursuivi. Il n'est pas corse, le mec. Du moment qu'il est en fuite, elle le cache. Il y a un truc de solidarité, qui est magnifique. Moi, je les adore, j'adore.
Mais vous êtes en train de faire construire, non? C'est ça?
Non. J'ai aucun.
Je me rappelle de Sardou, il avait fait ça aussi.
J'ai aucun intérêt en Corse, j'ai pas de maison en Corse. J'ai rien en Corse.
Bon, mais on les aime quand même, les Corses. Voilà. La Corse s'installe au Salon international de l'agriculture du 21 février au 1er mars. C'est le pavillon 3, allée N, stand 116. Il y a plein de produits extrêmement goûteux. Merci, voilà. L'huile d'olive sera pressée en direct. Et
il y aura un vin, il y a tout.
Et il y aura même comme une place de village. Il y aura des chants traditionnels polyphoniques. Ah, et ça c'est pas.
Michel est parti.
Imoulini, moi j'adore.
Allez,
on retrouve Michel Boujda et Didier Porte dans un instant.
Vous écoutez RTL.
11h, 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Si vous le rejoignez sur RTL, nous sommes avec Michel Boujda dans la bonne heure ce matin. C'est le Bougenin qui est au théâtre Édouard VII à 19h dans Ma vie rêvée.
Et qui est affamé. Hein.
Là, oui. Il ne vous nourrit pas, Bernard Murat. Hein, parce non. que là, toute la charcuterie corse est en train de lui passer.
Je ne suis pas sûr qu'il sera soir au théâtre.
Hein, bien, elle est délicieuse. Allez, tendez l'oreille.
C'est tellement bon. Mais en plus, après, j'ai un déjeuner.
Tendez l'oreille. Didier Porte fait sa semaine.
La semaine de Didier Porte.
Bah écoutez, il y a eu un jour, la semaine dernière, absolument magique, où en l'espace d'une heure, on a appris que Dassault allait vendre des Rafales, oui. Renault créer des emplois, et que les jeunes de l'UMP étaient dirigés par un sans-papier camerounais. Ouais. Ce matin-là, j'ai soupçonné un canular. Mais ça m'a bien fait rigoler. Stéphane Tiki, président du mouvement des jeunes pop de l'UMP, nommé à ce poste par Sarkozy en personne, et membre du courant La droite forte dans ta gueule, Mamadou, de Geoffroy Ditier et de l'ancien frontiste Guillaume Pelletier, se trouve être en situation irrégulière en France. Il a fait une demande de naturalisation il y a quelques années, laquelle a été rejetée et il n'a pas insisté. Il est donc ce qu'on appelle un sans-papier. Et naturellement, le Front National a immédiatement exigé qu'il soit renvoyé au Cameroun jusqu'à une éventuelle régularisation de sa situation permettant son retour. Bien, je vais vous surprendre. Pour une fois, je serais tenté d'être d'accord avec le FLE. Sauf que moi, j'irai encore plus loin. Non seulement je renverrai Stéphane Tiki au Cameroun, mais j'en profiterai pour y délocaliser la totalité du mouvement des jeunes pop. Hein. Et ce, pour une simple et bonne raison. Quelqu'un peut-il témoigner que depuis leur création il y a maintenant 12 ans, les jeunes pop de l'UMP aient manifesté une quelconque utilité à la collectivité, à un quelconque moment et d'une quelconque manière que ce soit ? Non. La seule chose qu'ils ont fait en 12 ans, c'est de pondre ce clip pathétique dans lequel la grande majorité de leurs dirigeants se sont ridiculisés, sauf Nadine Morano, pour qui c'était déjà fait depuis longtemps. Souvenez-vous, pour ceux qui veulent changer le monde, au secours. Alors je dis oui, envoyons tous les jeunes pop au Cameroun. Là-bas, ils se rendront peut-être enfin utiles à quelque chose. Ils creuseront des puits, ils récolteront du manioc. Hein, en France, il est question de rétablir le service militaire là-bas, avec Boko Haram en face, ils vont se régaler. Et surtout, ils apprendront à danser autre chose qu'à la queue leu-leu avec la Morano en tête de chenille pendant les surbooms de leur université d'été, non plus de la Baule, mais de Yaoundé. L'autre info qui m'a frappé cette semaine, c'est l'annulation par la cour d'appel de l'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie, qui avait accordé à ce dernier 403 millions d'euros. La sentence est rétractée, comme dirait DSK, mais tenez-vous bien, la cour d'appel n'ordonne pas pour autant la restitution des sommes par M. Tapie. Ce dernier a donc touché de l'argent indûment, mais il le garde, 403 millions d'euros. Et c'est la cour d'appel qui lui offre, tout en lui signifiant qu'il n'y a pas droit. Elle est trop sympa, hein, cette cour d'appel. Pourquoi ça ne nous arrive jamais à nous de tomber sur des magistrats vraiment cool, pas mesquins? Vous avez touché 400 millions que vous n'auriez pas dû. Allez, c'est pour la maison, on va pas chipoter. Hein. Royaux à la barre, les enrobés. C'est un peu comme si, pour t'être fait flasher à 180 sur l'autoroute, le juge du tribunal correctionnel te collait 6 mois de retrait de permis et t'offrait une Porsche. Bon. Je terminerai cette chronique sur une note de gravité, en saluant le courage de Souleymane, ce franco-mauritanien de 33 ans, qui s'est trouvé insulté et empêché d'entrer dans le métro parisien par une horde de nazillons houblonisés venus soutenir l'équipe de foot de Chelsea opposée au PSG. Pendant plusieurs minutes, je ne sais pas si vous avez vu les images, ce garçon a fait face aux dizaines de primates entassés dans la rame et éructant des insultes racistes en essayant de forcer l'entrée à plusieurs reprises au risque de se faire massacrer. Il a même perdu son téléphone portable dans la bousculade. Commentaire désabusé de Souleymane au journaliste du Parisien qui l'a retrouvé. Aucun usager n'a pris ma défense, mais de toute façon, que pouvait-on faire? Je suis rentré chez moi sans parler de cette histoire à personne, ni à ma femme, ni à mes enfants. Vous êtes le premier à qui j'en parle. Et puis, que dire à mes enfants? Que papa s'est fait bousculer dans le métro parce qu'il est noir? Cela ne sert à rien. Bravo à Souleymane pour son courage et sa dignité. Ces Anglais sont vraiment des animaux. Heureusement qu'en France, nous, on n'est jamais comme ça. À jeudi, dans deux semaines, on ne sait jamais.
C'était Didier Porte qui donnera une représentation exceptionnelle de son spectacle le 19 mars et un jeudi au Théâtre Trévise à Paris. On va retrouver maintenant Éric Dussart hein, dans un instant pour parler télévision. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussart met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec le nouvel an chinois, l'année du Yang.
Et oui, et on entre donc dans l'année de la
chèvre.
Et alors, il fallait que François Hollande nous fasse une déclaration à ce sujet, c'est vrai que c'était capital. Et il en a profité pour faire une spéciale dédicace, hein, comme l'a relevé Touche pas à mon poste. Écoutez cette sacrée confession de François Hollande.
L'an dernier, c'était donc sous le signe du cheval que nous avions célébré le nouvel an. Cette année, c'est le signe de la chèvre. Il m'a été répondu que la chèvre était sociable. La chienne, je l'ai déjà eue.
Je pense qu'on aura le droit à un nouvel ouvrage de Valérie Trévaleur assez rapidement.
Il est quand même très drôle. Mais il a beaucoup d'humour.
Ouais, mais il faudra pas qu'il s'étonne après s'il sort un autre bouquin. Hein. Là, il l'aura bien cherché.
Je pense à son labrador.
Ouais, c'est ça, bien sûr. On verra.
Non, alors là.
Nous, on a pensé autre chose.
Ah non, non, non. Là, vous êtes mauvaise. Là, vous avez l'esprit mal placé.
Eh ben, on verra bien.
Franchement, je pense qu'il a pensé à la chienne labrador que les Québécois lui ont fait.
Oui, oui, bah vous verrez quand il y aura merci pour ce petit machin.
Chacun pense à ce qu'il veut. Non, mais la chienne, je l'ai eue, c'est forcément.
Nous, on a pensé à ça.
À la chienne labrador.
Bon, on va revenir à cette année de la chèvre. Hein, et pour en savoir plus sur cet animal, bien, je vous propose d'écouter un expert en chèvre, lui-même en est une d'ailleurs. C'est un ancien candidat d'une télé-réalité qui avait été envoyé dans une ferme où il était allé de surprise en surprise.
La télé, ça fait plus petit une poule. Alors moi, j'aimerais bien en adopter une.
Oui.
Mais une toute petite. Quand vous n'avez pas des poulains. Quand vous n'avez pas des poulains.
Poulain. Le poulain, c'est le bébé de cheval.
Je pense que s'il y aurait un casting pour être fermier, je pense que j'aurais raté.
Si tu veux devenir fermier, il faut avoir ton bac déjà.
Bah oui, parce qu'il faut compter le nombre de poules et tout ça.
Oui, enfin, oui, c'est, bah ouais.
Non, je n'avais jamais touché une chèvre, je n'ai jamais porté un chevron. Ou un chevignon.
Il faut peut-être des blousons en peau de chèvre, mais a priori, non. C'est plutôt un chevreau.
Hein, on a dit pas de marque, hein, pas de marque.
Et donc, vous avez entendu, hein, il croyait aussi que le petit de la poule était un poulain. On imagine la pauvre poule en train d'accoucher de son poulain. Je pense qu'elle doit déguster, surtout que ça veut dire qu'avant, il y a déjà eu accouplement avec un cheval.
Ouais.
Donc, c'est quand même une poule qui a de l'appétit. Hein. Poule à la broche, on l'appelle ça. Bon, place à un vrai spécialiste de la chèvre maintenant. Et pour cause, il en élève. D'ailleurs, il a un sacré élevage, hein, à en croire Julien Lepers.
Firmin, c'est le moment jamais de nous parler de ce que vous faites. Vous élevez des chèvres, vous avez trois, vous faites du fromage. D'accord. Des lapins.
35 de chèvres, pas 3. Hein.
Ah oui, d'accord, je croyais qu'il y en avait 3, oui, d'accord.
Donc, oui, 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 oui. Heureusement, parce qu'un élevage de 3 chèvres, tu vas pas bien loin quand même.
C'est pas vraiment un élevage, là.
C'est-à-dire, tu fais quoi?
C'est des animaux de compagnie.
Tu fais 5 fromages par an, t'en vis pas. Hein,
c'est plus suspect qu'il y en a que 3. Hein.
Oui, exactement. Oui. Elle passe souvent la casserole.
Oui, ça, c'est un élevage de légionnaire. Bon. Sinon, il y a un autre animal qui a l'honneur en ce 19 février. C'est aujourd'hui la journée internationale pour la sauvegarde des baleines. Mais en fait, une baleine, ça mesure combien exactement? Quelles sont les dimensions d'une baleine? Petit rappel avec cette candidate des ch'tis de
W9. Parce que j'ai fait un exposé avec les baleines à l'école.
Et alors, ils disaient combien de mètres?
Il y a
50 mètres quand même.
La baleine, ça fait vraiment beaucoup de kilomètres. C'est vraiment énorme. On n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur le nombre de kilomètres que fait la baleine.
C'est quoi, 10-12 kilomètres de long, une baleine,
non,
à peu près?
Attendez, qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle parcourt.
Elle parlait bien des dimensions.
Elle mesure, elle parlait des mesures. Ouais.
Donc on va l'informer, c'est 10 kilomètres à peu près pour une baleine, sachant que c'est 500 mètres déjà pour un dauphin.
Moi j'essaye de les sauver, tous ces candidats malheureux.
Non, ça sert à rien. Et forcément, avec des dimensions pareilles, la baleine, des fois, elle peut provoquer de sacrés incidents. Nos amis marseillais en savent quelque chose.
D'après l'expression, quel poisson aurait bouché le port de Marseille?
Une baleine.
La sardine.
Ça dit, c'est vrai que ça aurait été plus logique finalement que ce soit une baleine qui bouche le port de Marseille. Une sardine, bon, à moins qu'elle soit vraiment obèse. Sinon, non, la baleine,
c'était
finalement,
bateau,
ça aurait pu marcher.
C'était la sardine.
Ouais, bah pour eux, non, c'était juste la baleine.
Allez, ma vie rêvée, c'est le nom du spectacle de Michel Bougenin.
Oui, vous imaginez donc une vie de rêve, cher Michel. Et pourtant, c'est pas la peine d'inventer de vrais moments de rêve. Vous en avez vécu notamment à la télé. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de cette émission où vous aviez rencontré une jeune fille très très fan des garçons.
Et toi, que t'aimes bien les garçons?
Non.
Tu les aimes pas?
Non.
Pourquoi tu les aimes pas?
Parce qu'ils sont bêtes.
Donc je suis bête?
Oui. T'es peut-être un peu gentil, mais...
Ah, un peu gentil.
Avec ton sourire, ça fait idiot.
Et bon, ils sont peut-être pas gentils, ils sont bêtes, mais parfois ils sont beaux.
Non.
Moi, par exemple.
Non, alors ça, c'est encore pire.
Les enfants sont formidables.
Moi, j'adorais. J'ai fait ça, hélas, pas longtemps, mais c'était la seule fois que j'ai accepté de faire de la télévision parce qu'il fallait parler avec les enfants. Et je trouve, vous rendez compte que sur la grille des chaînes, ne serait-ce que du service public, il n'y a pas une émission, une vraie émission, où les enfants parlent et où ils ne sont pas ridiculisés. Il n'y en a pas une. Alors qu'on fait beaucoup d'émissions pour les enfants,
Bien sûr.
Mais les enfants eux-mêmes ne parlent pas. Et or, entre 6 ans et 12 ans, ils ont des tas de choses à dire sur la famille, sur l'argent.
Et sur vous.
Mais ils ne parlent pas. Ils n'ont pas la parole.
c'est tout de même.
Il y a peut-être des règles, non
Non, 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 on a fait cette émission.
Il y a eu des émissions. Il y a eu quelques émissions.
Il y a eu des émissions sur France Inter. L'Émergie avait une émission formidable sur France Inter. Il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, Les Enfants de l'an 2000. Oui, parler de l'an 2000, ça a duré
tous les soirs sur RTL. Marc Olivier fait parler sur l'actualité.
Mais c'est pas beaucoup. Reconnaissez-le, c'est pas beaucoup.
Or, c'est vrai que c'est très bien.
Les grands consommateurs d'images, c'est les enfants. Moi, je trouve ça dommage qu'on fasse pas plus parler des enfants.
Justement, transition toute choisie, les enfants, hein, on en parle. Bah, on va écouter un extrait pour les enfants. On va terminer avec une expression bien connue. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il est un peu rustre, on dit que c'est un ours mâle.
Léché.
Oui, nous, on dit comme ça. Pas dans le maillon faible.
Selon l'expression, à quel animal mal léché compare-t-on une personne grossière? Quel est l'animal qui est mal léché?
Une chatte.
Ah non, pas la chatte.
Une chatte mal léchée, ça peut aussi mettre de mauvaise humeur, effectivement. Mais c'est autre chose, ça. On peut pas en parler à cette heure-ci. C'est pas possible.
Merci, Éric Dussart. On vous retrouve demain, naturellement. Et alors, je peux vous dire, je sais pas si vous voyez, Michel Bougenat est très content de la montre RTL qu'on vient de lui offrir. Il la porte au poignet, il dit lui-même qu'elle est superbe.
Oui, elle est jolie, je retire tout ce que j'ai dit.
Voilà, parfait.
Je veux la même. Comme quoi, je suis
les excuses sont acceptées.
Tout à fait. Corruptible.
Voilà, absolument. On vous retrouve dans un instant ainsi que Régis Maillot et toute la bande de la Bonne Heure. Mais RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
11h-12h30.
À la Bonne Heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Michel Bougenat qui est notre invité et qui est en ce moment à l'affiche au théâtre Édouard VII.
Oui, ça, oui monsieur.
19h. Ça, jusqu'à quand?
Jusqu'au 5 avril. Je ne pourrais pas aller plus loin.
Pourquoi? Parce qu'il y a un film après?
Parce que je rentre en préparation de mon film, en principe, voilà, qui s'appelle Le Cœur en Braille, mon troisième film que j'ai mis 7 ans à trouver quel film j'allais faire. Et parce que pendant 7 ans, j'ai écrit des histoires que j'ai jetées. Et là, je suis tombé l'été dernier.
C'est plus le mariage alors, hein?
Non, c'est fini. C'était pas bien. Quand c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Ouais. J'ai une chance formidable. C'est de pouvoir me dire à moi-même non, ne fais pas ça. Si je sens pas, je fais pas. Et là, je suis tombé sur un roman qui s'appelle Le Cœur en Braille, qui m'a bouleversé, fait rire et bouleversé. C'est avec deux enfants et je tournerai en principe cet été. Maintenant,
cet été, vous avez le festival de Ramatuelle.
Mais ça me pose énormément de problèmes.
Ah oui.
Mais je vais me débrouiller.
D'accord.
Parce que c'est important le festival de Ramatuelle. En plus, cette année, on a une programmation magnifique. En plus, l'année dernière, c'était le 30e édition. Mais en fait, le 30e, c'est cet été. Je sais pas comment on dit. Enfin, j'ai pas très bien compris. Mais Ramatuelle, c'est très important, évidemment, dans ma vie. C'est devenu très important. C'est ma 9e année. Donc voilà, je vais mélanger tout ça. On va s'en sortir. Évidemment, pour moi, c'est un événement de pouvoir tourner mon troisième film.
Mais bon, en même temps,
mes producteurs ils me disent tout le temps, mais tu sais que le temps passe. Tu ne crois pas que tu peux attendre comme ça pendant des années.
Il faut faire le film maintenant.
Oui, mais les arbres ne poussent pas en une seule journée. Il faut faire les choses quand elles sont prêtes. Il faut vivre les choses quand vous êtes mûr pour les vivre. Il y a trop de choses qu'on fait trop vite aujourd'hui.
Dans l'urgence, oui.
Et on les fait mal. Ça ne sert à rien.
Est-ce que vous allez fêter le Nouvel An chinois, par exemple?
Énormément.
Ah oui.
Énormément.
Parce que, non, mais il y a un débat. Il faut dire les choses aux auditeurs. Il y a un débat. Est-ce que c'est l'année de la chèvre ou l'année du mouton?
Ah oui, c'est vrai parce que ça se discute.
Ça se discute parce qu'au fond... c'est la musique de la chèvre.
Ah, oui. Bah, c'est l'année de la chèvre, alors.
On sait que c'est l'année de la chienne, de toute façon, maintenant, grâce à François.
Mais c'est vrai que c'est le même mot, c'est le yang. Les Anglais disent plutôt le mouton. Et nous, on dit plutôt la chèvre.
Peut-être demander au chinois, non?
Alors,
tout simplement.
Mais ils savent pas parce qu'ils vous répondent en chinois.
Ils ne répondent pas en français. C'est le même mot. Il n'y a pas de mot.
Non, chèvre et mouton, c'est pareil.
Il n'y a pas de
mais
non plus.
Il n'y a pas de mais. Ça ne faut pas se tromper.
Le chinois ne fait pas la différence.
Mais les Chinois, ils disent quoi, les Chinois?
Ils disent yang.
Non, mais quand on leur demande, on leur dit c'est l'année de la chèvre, ils nous répondent chèvre ou...
Ils répondent pas.
Mais c'est-à-dire, c'est plutôt quand on leur monte une chèvre, est-ce qu'ils disent mouton?
Mais non, c'est le même mot. C'est
Est-ce que tu veux faire un méchoui chinois, alors?
Cela dit, est-ce que vous connaissez les personnalités qui sont nées sous le signe de la chèvre?
Est-ce que c'est révélateur de leur personnalité, justement?
Alors, si je vous dis Nicolas Sarkozy...
Ah bah écoutez,
il est chèvre. Muriel Robin, elle est chèvre. Nicole Kidman, Christian Estrosi...
Ah oui,
Anelka, Joey Starr, Bruce Willis, Bill Gates, Mick Jagger, Keith Richards.
Ils ont tous un petit caractère. Hein.
Isabella Gianni, Catherine Deneuve est chèvre. Ah oui.
Laurent Gérin, Robert De Niro, Nicolas Hulot, Clovis Cardignac ou Julia Roberts.
Est-ce que Michel est dragon?
Ah, vous êtes dragon?
Oui, je suis dragon.
Oui. Ouais. Ouais. Et nous, on s'est rendu compte au bureau qu'on était tous des lapins.
On est lièvres.
Et ça ne s'invente pas. Et franchement, mais ça ne m'étonne pas.
Mais même vous, Régis.
Même moi, je suis lapin.
Oui, vous êtes lapin.
Oui, monsieur Mayol, vous êtes lapin.
Je suis quoi? Moi, je suis cochon.
Oui. Cheval, je crois.
Vous êtes cheval.
Ah oui.
Bah écoutez, on se complète.
Poulain. Alors maintenant, la question. Les Césars, vous allez y aller à la cérémonie des Césars?
Non, je suis sur scène. Non, je ne peux pas y aller.
Non, vous n'y allez pas. Vous aimez y aller ou pas?
Non, je n'aime pas y aller. J'y vais quand je suis nommé. Oui, j'en ai eu un. J'ai été nommé plusieurs fois. J'ai été nommé à chaque fois dans une catégorie différente. J'ai été nommé comme meilleur acteur pour Le Nombril du Monde. J'ai été nommé comme pour le meilleur premier film, pour Père et Fils. Et j'ai été nommé comme meilleur second rôle, ou que celui-là, je l'ai eu.
Vous l'avez eu, oui.
Mais
vous avez un coup, hein.
Je n'y vais que si je suis nommé. Sinon, je regarde ça à la télé avec mes enfants.
Vous avez déjà un pronostic ou pas, cette année? Qui est votre avis?
Je pense que la famille Bélier va récolter des Césars.
L'année de la chèvre, en plus.
Oui, en plus.
Non, il y a les deux Saint-Laurent, l'un face à l'autre.
Ouais, mais... Pierre Niney. Moi, j'ai vu les deux.
Alors, lequel vous préférez?
Moi, je suis très, très amoureux de Pierre Niney, que je trouve un acteur...
C'est Gaspard Huliel, il est pas mal.
Il est très, très bien, Huliel. Mais, si vous voulez, Niney, sur l'ensemble de sa palette, tous les rôles qu'il a fait depuis un certain temps, et je l'ai vu jouer à la Comédie-Française, évidemment... il a une palette immense, Niney. Il a des capacités immenses. Donc, je dirais que Huel est très bien dans Saint-Laurent, mais je pense que Niney va l'avoir. Et chez les filles...
Il y a Karine Viard, il y a Sandrine Kiberlin.
Il y a Juliette Binoche, Catherine Deneuve aussi.
Je pense que Karine Viard a une grande chance.
Dans la famille Bélier.
Alors, si vous avez des pronostics à faire, téléphonez au 64 900 et puis faites des pronostics. Ceux qui donneront les trois meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film gagneront un coffret de 30 DVD estampillé RTL. Et ça, franchement, moi, je vais téléphoner parce que j'adorerais avoir toute la collection des films RTL. Bon. On fait toujours gagner des cadeaux super dans l'émission, vraiment.
Ça continue
parce que maintenant, on va gagner ce séjour d'un week-end à l'Aigle des Neiges à Val d'Isère. Je rappelle mon énigme. On cherche le nom d'un sport qui a été inventé par un major anglais, Clopton Wingfield, 1873. Il l'appela le sphéristiqué, du grec sphéris, balle en grec. Mais il prit très vite un autre nom inspiré d'un des termes utilisés dans un jeu bien français, le jeu de paume. C'est un sport qui n'a rien à voir avec les restaurants parce qu'il n'y a ni set, ni table, ni de service compris. Je crois que j'ai aidé.
Ni avec la boucherie parce qu'il n'y a pas de filet.
Il n'y a pas de filet, voilà. Exactement. Alors de quoi s'agit-il? On va essayer d'appeler un auditeur à Strasbourg. Alors, est-ce que ça sonne? C'est Kevin, normalement, qui doit répondre.
Le téléphone,
ça sonne.
C'est Kevin.
Est-ce que le téléphone sonne?
Hein,
ouais. Non,
on fait des
progrès.
Bien sûr.
Ça marche. Oui, bonjour. Moi, je parlais à Kevin, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Bonjour, c'est Stéphane Bern d'RTL à l'appareil.
C'est pour un calendrier.
Bonjour.
Enchanté.
Moi aussi. J'avais peur
de vous. Je pensais avoir Stéphane Bern au téléphone aujourd'hui.
Oui, moi non plus. Si je pensais que. Alors, il paraît que vous êtes. Non, vous êtes pâtissier, c'est ça, à Strasbourg, Kevin.
Ouais, voilà. Je suis pâtissier à Strasbourg. J'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc.
Vous avez vendu des Kouglof aujourd'hui? Vous en avez fait beaucoup?
On n'a pas vendu de Kouglof aujourd'hui, mais la Forêt Noire, ça a bien marché. Là.
Forêt Noire.
Le Kouglof, c'est calme. Là. Les touristes ne sont pas encore là, vu que ce n'est pas encore les vacances.
Oui.
Mais ça ne va pas tarder, là. Je pense que.
Bon. Bah, en tout
ça
cas,
va bien partir.
En attendant, je ne sais pas si les touristes sont en vacances, mais si vous me donnez la bonne réponse, vous allez peut-être partir en week-end à Val d'Isère. Alors dites-moi, de quelle invention s'agit-il?
Le tennis.
Bravo, Kevin.
C'est
le tennis. Alors,
franchement,
vous avez trouvé, Kevin, c'était quand même très dur.
Alors, vous allez partir en week-end à l'hôtel L'Aigle des Neiges. Il paraît que c'est l'adresse incontournable de la station de Val d'Isère. Je vous souhaite un très, très bon séjour. Vous savez qui vous allez partir? Oui.
Merci à toute l'équipe encore.
Merci à vous. Et vous avez une pâtissière à côté de vous qui veut partir avec vous?
Non, mais je vais partir avec ma femme. Faut pas dire ça, si elle écoute la radio, elle va encore croire que je la trompe, alors...
attendez, Kevin. Pourquoi vous avez dit « elle va encore croire » Parce que c'est... Elle croit de temps en temps que c'est vous le faites.
Alors non, non, mais je pense pas qu'elle le croit, mais si elle m'entend à la radio, elle va encore le croire. Ouais.
Non, mais en tout cas, elle va être sûre maintenant que c'est vous qui avez gagné. Quel est son prénom, si je peux me permettre? Pardon?
Diana. Diana, elle s'appelle.
Eh bien, ah ben voilà, eh ben, Diana et Kevin. Diana, si vous nous écoutez, c'est vous qui allez partir avec Kevin en un week-end à Val d'Isère.
En Mercedes.
Et je vous remercie, cher Kevin, de votre fidélité à RTL, vraiment.
Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Vraiment,
Je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir joué avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Michel Bougenat pour son spectacle Ma vie rêvée au théâtre Édouard VII. C'est à 19h, c'est jusqu'au 5 avril. Donc, faut pas rater le coche, faut y aller. Et puis, on faut y aller. Ensuite, vous irez en tournée dans toute la France.
C'est très gentil de le dire. Oui, je pars en tournée, je fais mon film, je pars en tournée, je fais tout en même temps. Et je suis super content. Et je dois dire une chose, c'est que cette aventure, elle est merveilleuse parce que après tant d'années de travail, de faire un succès comme ça, alors c'est vrai que j'ai plutôt de la chance, ça a toujours bien marché pour moi. Mais là, il se passe un truc différent avec ce spectacle.
Et puis le théâtre fait beaucoup, je trouve. C'est ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui et on est.
Vous voulez dire même si le spectacle n'est pas terrible.
Non, le spectacle est formidable. Non, mais je ne sais pas parce que c'est vraiment théâtral.
C'est vrai que les gens vont à l'Édouard VII aussi, comme ils vont au théâtre de la ville. C'est une marque.
C'est une marque.
Donc voilà, c'est très beau. C'est comme quand tu gagnes Roland Garros.
Oui.
Après l'avoir gagné trois fois, tu l'as plus gagné pendant trois fois, et puis là, tout d'un coup, tu le regagnes quand t'es vieux, tu vois.
Voici maintenant que s'avance Régis Maillot.
Le Maillot Express.
Pardon, Michel, j'aime pas couper la parole,
Monsieur Maillot, à vous.
Merci.
Je présente beaucoup mieux que l'autre.
Hein. Oui, c'est pas mal. Hein, je vais vous engager, Michel.
Merci, Monsieur Maillot.
Alors, on commence par l'éphéméride. Nous sommes le 19 février, c'est l'année de la chèvre, on en parlait. Mais c'est aussi l'anniversaire d'une belle érection.
Pardon.
Ne gloussez pas, Stéphane Bern.
Non,
il s'agit
une statue,
pas.
Une statue.
Voilà, de n'importe quelle érection, mais d'une érection qui devrait vous sensibiliser, puisqu'il s'agit de l'érection du duché de Savoie par Sigismond Ier en 1416. Qui n'est pas le dernier des inconnus, puisque 1416, il a un CV aussi long que l'agenda judiciaire de Bernard Tapie. Le mec, il est prince de la maison de Luxembourg.
C'est
le dernier prince du Luxembourg. Alors aujourd'hui, quelques courriers d'auditeurs. C'est parti. On commence par un premier courrier, Jean-Marc. Jean-Marc, qui est sauveteur en mer dans les Ardennes. Il ne doit pas avoir beaucoup de boulot, le gars. Collectionneur de latex, objets en silicone et autres radiateurs en dur. On voit le genre. Jean-Marc, il me demande qu'est-ce que le 49.3 ? J'imagine, Jean-Marc, que tu as vu les films 50 nuances de gris. Mais c'est un peu pareil que dans le film 50 nuances de gris. Le 49.3, c'est un accessoire qui te permet, quand la situation semble bloquée, de passer en force. Ça déverrouille bien la situation. Effectivement, ça peut surprendre un petit peu, surtout quand tu t'y attends pas. Enfin, disons que c'est une façon de faire avancer les débats, en évitant de devoir argumenter trop longtemps. Hein. Et la motion de censure, c'est un peu différent. C'est le même effet que le 49.3, sauf que cette fois, c'est toi qui réclames. Voilà. Autre question d'une auditrice, Nadine, qui nous écrit, est-ce que dans l'équipe de La Bonne Heure, vous respectez la tradition de se déguiser pour Mardi Gras ? Malheureusement, oui, Nadine. Stéphane Bern adore se déguiser. C'est son péché mignon, sa martingale, sa petite coquetterie. Chaque carnaval, il ne vient pas avec un costume, mais une dizaine de costumes. Cette année, Stéphane s'est promené nu dans les couloirs de RTL en hurlant aux jeunes femmes « Je suis le colosse de Rhodes ».
Pas exagéré, non.
L'année dernière, nous a fait la même chose avec Big Ben, prétentieux. Quant à Patrice Carmouze, il s'est fait rajouter une longue barbe et un chapeau pour ressembler à Merlin. Pour la baguette, il a utilisé Éric Dussard, qui correspond mieux au format.
Belle baguette.
Voilà, et on termine par un dernier appel, un appel à l'aide de la Grèce. Désolé, on ne prend pas les appels en PCV. À demain.
C'était Régis Maillot. Allez, on marque une dernière pause et puis il nous restera le temps d'un coup de cœur et d'un coup de gueule de Michel Bougenat. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. Le coup de cœur et coup de gueule de l'invité.
Alors, Michel Bougenat, c'est le moment de me donner un coup de gueule, un coup de cœur.
Alors, un coup de cœur, c'est l'acteur qui joue, dont je n'arrive pas à me souvenir le nom, qui joue Stephen Hawking dans la merveilleuse histoire du temps, qui est un incroyable travail d'acteur. Mais c'est incroyable ce que fait. C'est bouleversant, c'est drôle.
C'est difficile d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un dont on se souvient plus du nom.
Stephen Hawking, ça c'est le scientifique
mais...
et l'acteur. J'ai un trou.
Wikipédia, allez-y.
La connexion Minitel en studio, on va vous trouver ça.
Mais c'est un film merveilleux, c'est une histoire incroyable.
Ça vient de sortir
Il est nommé aux Oscars d'ailleurs.
Les Oscars c'est dimanche, non?
En plus. C'est ce fameux scientifique qui a mis en place la théorie du Big Bang.
Exact.
Et qui avait une sclérose en plaques. Amiotique, c'est-à-dire que les muscles.
C'est pas Eddie Redmayne, non?
Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux ce travail-là.
Toute la distribution, on peut la faire, hein?
Il joue aussi.
Eddie Redmayne,
je crois. Eddie Redmayne. Voilà, ça y est, ouf, on sent mieux, on l'a trouvé.
On sent mieux.
Mais
oui,
c'est vrai. Et alors maintenant, le coup de gueule.
Le coup de gueule, en ce moment, c'est.
C'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Non, je plaisante,
oui,
Michel.
Oui, c'est dramatique, parce qu'il y en aurait tellement. Mais enfin, il y a un truc global. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, machin, tout ça, mais ils m'ont mis sur Twitter, ils m'ont mis sur Facebook, tout ça. C'est tout ce que je peux lire de déversement de haine, d'horreur sur les réseaux sociaux, parce que pour la plupart du temps, c'est anonyme.
Les gens sont anonymes, alors que vous y êtes à visage découvert.
Il y a une libération, mais pas que sur moi, on s'en fout
sur
de
les
moi.
Autres, oui.
C'est dans l'absolu, cette parole libérée qui me donne envie de vomir et qui me dit que c'est un piège formidable. Il y a un mec là-bas qui lève la main pour dire que je ferme ma gueule.
Merci Michel Bougelin d'avoir été avec nous. Je rappelle, 19h au théâtre Édouard VII. J'ai oublié de dire que ce week-end, Régis Maillot est à Clermont-Ferrand et à Lens-le-Bourg au festival C'est le printemps chez notre ami Laurent Gérard. Et puis demain, nous serons avec Michel Galabru dans À la bonne heure. Merci Michel d'avoir été avec nous. On va l'embrasser. Et donc, on ira vous voir au théâtre Édouard VII, 19h. RTL. Il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.